Mes amis, j'avais environ 15 ans quand cette année-là, il y avait une grande rencontre dans ma ville natale. C'était une rencontre des jeunes. À ce moment-là, on l'appelait le Concile des jeunes. Alors nous, comme on était au petit séminaire, on a demandé que le petit séminariste joue un rôle important durant l'Eucharistie qui allait conclure ce concile de jeunes-là. Alors on nous a demandé de mimer l'Évangile. Alors j'étais parmi les personnes qui devaient mimer l'Évangile. Il s'agissait de l'Évangile qu'on trouve au chapitre 1 de Saint Jean, la rencontre de deux premiers disciples avec Jésus. Alors, vous vous rappelez, c'est juste après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Le lendemain, dit le texte, Jésus est revenu au même endroit et y passait le long de la rivière. Jean-Baptiste voit Jésus, Jean-Baptiste qui était entouré de ses disciples, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu ». Et deux de ses disciples se détachent du groupe, ils commencent à suivre Jésus. Et moi, dans le rôle, j'étais parmi les deux disciples qui suivaient Jésus. Alors, on suit Jésus, Jésus à un moment donné se retourne, il dit, « Que cherchez-vous ? » Alors nous, les deux disciples, nous disons, « Maître, où demeures-tu ? » Alors Jésus dit, « Venez et vous verrez. » Regardez, les disciples, le texte continue, il dit, ces jours-là, ces deux disciples allèrent rester avec Jésus et ils demeurèrent avec lui. Et c'était 4 heures du soir. Les deux disciples se rappelaient même l'heure de l'événement. Mais maintenant, ce qui est paradoxal dans le texte d'aujourd'hui, c'est que Dieu lui-même voudrait maintenant venir demeurer en nous. Ce n'est plus les deux disciples qui désirent demeurer en Dieu, mais Dieu voudrait rester avec nous. Il veut demeurer avec nous. Demeurer, c'est durer. Ce n'est pas instantanément faire des choses. C'est accomplir des choses d'une manière qui dure, qui prend tout l'espace, qui prend tout le temps. Alors quand Dieu veut demeurer avec nous, c'est pour toujours qu'il veut demeurer avec nous. Regardez comment le Seigneur respecte toujours la liberté. Les deux disciples qui le suivent, le Seigneur ne les impose pas. Vous allez demeurer avec moi. Il dit, venez et vous verrez. La même chose dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur ne s'impose pas. Il dit, si vous m'aimez, conditionnel, vous garderez ma parole. Alors mon Père vous aimera, et nous viendrons chez vous, et nous ferons chez vous votre demeure. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Dieu le Créateur, Dieu l'infiniment bon, pourquoi est-ce qu'il veut habiter dans le cœur de ses créatures? La réponse, il me semble, c'est parce que Dieu l'artiste nous a créés avec un cœur qui a soif de lui, nous a créés toutes tournées vers le bonheur. Et le bonheur pour l'être humain, c'est avoir Dieu, c'est réjouir de la vie de Dieu, c'est être en mesure de vivre la vie de communion avec Dieu. C'est être en perpétuelle relation avec Dieu. C'est là que se trouve le vrai bonheur. Que veux-tu? C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et Dieu, le sachant, il sait qu'un être humain qui s'éloigne de lui, qui vit en dehors de lui, eh bien, il mènera sa vie. Mais ça sera une vie voie à l'échec. Ça sera une vie qui va finir par disparaître. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Il n'y a pas de bonheur, vrai bonheur en dehors de Dieu. Il n'y a pas de vrai amour en dehors de Dieu. Alors voilà pourquoi Dieu se présente en nous. Le rêve de Dieu, c'est de demeurer en nous. Voilà pourquoi il nous a créés, pour vivre le bonheur avec lui, pour célébrer l'amour avec lui. Mais maintenant, encore là, Dieu voudrait que nous faisions notre part. Regardez dans notre cœur. D'ailleurs, Augustin le dit très bien. Il dit, Seigneur, tu nous as fait tout pour toi, avec un cœur sans repos, tant qu'il ne demeurera pas en toi. Notre cœur aura le repos, la sérénité, la vie, l'amour, le jour où il reposera, il demeurera en Dieu. Il y a deux semaines, on avait célébré les funérailles de Walker Bradley. Alors la famille disait que cet homme-là voulait vraiment vivre. Il voyait la mort venir, c'est vrai, mais il tenait tellement à sa vie, disaient ses enfants. Il aimait vivre. Mais quand on va dans le fond des choses, chaque être humain veut s'accrocher à la vie. On veut vivre pour toujours. On sent le désir d'aller au-delà de la mort et de continuer à vivre. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et Dieu répond à cette soif-là, il répond à ces aspirations-là, il répond à cette attente-là, parce qu'il est la vie. Il veut nous remplir de cette vie. Voilà pourquoi il veut demeurer avec nous. Voilà pourquoi il veut rester avec nous. Pour vivre ce bonheur, hein, pour que nous sentions le délice de ce bonheur avec lui. Mais maintenant, ce qu'il nous dit dans l'évangile, comme je l'ai dit, c'est au conditionnel. Lui, Dieu veut venir. C'est son rêve de venir habiter, demeurer en nous. Mais il y a une condition. Il faudrait que nous autres là, eh bien, nous accueillions sa parole, ses commandements, que nous soyons fidèles à sa parole et la mettions en pratique. Mais maintenant, comment vérifier que nous aimons Dieu? Comment vérifier que nous sommes fidèles à sa parole? Alors le pape Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, il donne la réponse. Il dit, eh bien, si vous voulez vérifier que vous aimez Dieu, trois choses. D'abord, vérifiez votre langue. La médisance, les calomnies, les dévaloriser la personne, le dénigrement qui sort de la bouche, eh bien ces choses-là, ce n'est pas une fidélité à la parole de Dieu, ça nous éloigne de Dieu, ça montre qu'on ne garde pas la parole de Dieu. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est dans cette langue-là que nous utilisons, eh bien notre langue doit être celle qui proclame les merveilles de Dieu. Et Saint Jacques l'apôtre le dit très bien, il ne faudrait pas que la même langue qui loue le Seigneur, qui sanctifie le Seigneur, qui glorifie le Seigneur, que ce soit la même langue qui dénigre, qui tue, qui dévalorise, qui dénude. Alors, premier contrôle, vérification, si nous gardons la parole de Dieu, la langue, il faudrait voir qu'est-ce que nous disons. Deuxième vérification, dit-il, eh bien, c'est où repose notre pensée. Où repose notre pensée? Est-ce que notre pensée se repose sur les choses uniquement terrestres, des choses qui nourrissent uniquement notre égoïsme, notre moi? Est-ce que notre pensée se repose sur des choses qui passent ou bien ça se repose sur la Jérusalem céleste, sur les valeurs d'en haut? Paul nous dira, eh bien, cherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Alors c'est là que doit se reposer notre pensée quotidienne. Les choses où se trouve le Christ sont les choses de la miséricorde, de pardon, de l'amour, du service, de l'accueil, etc. C'est là où se trouvent les choses d'en haut. C'est là que notre pensée doit se reposer. Donc, pour vérifier si nous aimons vraiment Dieu, la langue, la pensée. La dernière chose, le style de vie. Comment nous vivons? Eh bien, si on nous pose la question, moi le premier, est-ce que vous aimez Dieu? Ben nous dirons oui, mais c'est facile. Mais l'amour chrétien, c'est pas un amour platonique. C'est pas un amour qui reste dans les airs. C'est pas un amour qui est dans la spéculation, dans les paroles. L'amour de Dieu, l'amour chrétien, c'est du concret. C'est du palpable. On peut vérifier. Regardez Mère Teresa. Alors qu'elle était au début de son groupe de sœurs pour aider les personnes, arrivée en Inde, elle voyait comment les personnes mouraient dans les rues de Calcutta. Et puis, finalement, c'était comme des animaux. Alors Mère Teresa s'est dit non, l'être humain ne doit pas mourir comme ça. Les débuts, tout ce qu'elle faisait, c'est créé ce qu'on appelait les mouroirs, là où les gens peuvent mourir avec dignité. On prend une personne dans la rue, on le met dans un endroit où les autres sœurs, les religieuses peuvent l'encadrer, l'aider, et puis la personne va mourir. Un endroit où on peut mourir comme un être humain. Ça, c'est du concret. Hein, ce n'est pas de la spéculation, c'est du concret. Quand tu regardes ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui, même le Seigneur qui nous invite à aller à appliquer des choses concrètes, on peut se référer, durant cette année de la miséricorde, à l'évangile de Matthieu, chapitre 25. D'ailleurs, on les appelle les œuvres de la miséricorde. C'est quoi? Eh bien, don de ton habit à celui qui n'en a pas. Des choses concrètes, simples. Don de ton pain à celui qui n'en a pas. Des choses simples, concrètes. Rends visite aux malades. Alors, ça, c'est l'amour chrétien. C'est du concret. Regardez, nous avons célébré les funérailles de notre frère Lionel Duclos, la famille l'appelait Donald. Mais regardez, tous les témoignages qu'on a eus, le beau témoignage qu'on a eu de Lionel, ce n'est pas du platonique, c'est-à-dire des choses, des paroles, mais ce sont des choses concrètes, des services concrets, des choses concrètes qu'il a rendues. C'est ça notre engagement chrétien, faire des choses concrètes. Aimer Dieu, c'est du concret, ça ne reste pas dans les paroles. Ça s'incarne dans les actes de tous les jours. Hier, j'étais invité au salon funéraire parce que la personne qui est décédée, en fait, elle avait 100 ans, imaginez-vous. Et puis, elle n'a pas eu d'enfant, c'était plutôt des nièces qui l'entouraient. Et ils ont préféré faire au salon funéraire, c'était une petite famille. En tout cas, il y avait 12 personnes, puis il y avait beaucoup de nourriture. Je suis resté avec la famille. Ensuite, j'ai entendu la famille quand je partais. « Ah, peut-être que la nourriture, on peut aller l'amener au berger de l'espoir. » C'est du concret. C'est des choses concrètes. Et puis, je suis monté dans mon auto. Je commençais à partir. Je vois le directeur du salon venir courir chez moi. J'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai oublié quelque chose ?» Je regarde dans ma voiture. Je m'arrête. Et dit « Non, la famille se disait, est-ce que tu peux prendre les fleurs pour que les fleurs soient offusque présentes dans la messe de dimanche ?» Je dis « Mais bien sûr, je prendrai les fleurs. » Et puis ils m'ont donné les fleurs, là et là. J'ai dit, mais les vases aussi. Oui, oui, les vases aussi. J'ai dit, mais c'est formidable, alors, j'ai pris les vases. Ouais. Hein? Alors ça, c'est du concret. Alors, c'est du concret. Il y a un article qui m'a beaucoup touché dans le journal Citizen, vous l'avez peut-être lu, du vendredi. C'est sur la petite Diana Lynn, elle a 8 ans. Elle avait le problème de foie, il fallait remplacer le foie. Alors, depuis février, la famille a écrit partout pour demander s'il peut y avoir des donneurs, des donneuses de foie. Finalement, ils ont eu un monsieur qui s'appelle Ken Bodle. La fille est de Russell. Et puis, l'opération s'est faite le 21 avril à Toronto. Tout s'est bien passé. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est comment les parents ont écrit dans le journal s'adressant à la personne qui a fait le geste. Il dit, voyez-vous, notre Diana est en bonne santé, elle est en train de récupérer. Merci beaucoup pour les donneurs qui ont donné leur nom, parce qu'il y en avait beaucoup qui ont appliqué. Mais évidemment, à cause de certaines circonstances ou des raisons médicales, on n'a pas pu le retenir. Mais on a retenu celui-là. Mais les familles reconnaissent que toutes les personnes qui ont fait don, qui ont montré la volonté de vouloir donner, on les remercie pour leur bon cœur, parce qu'ils nous inspirent. Mais il continue. Celui qui a donné la foi à notre fille, elle n'a pas seulement donné la vie à notre fille, il n'a pas seulement prolongé la vie de notre fille, mais il nous a donné notre Diana. Il nous a redonné notre Diana. Parce qu'elle était partie. En fait, c'était comme une renaissance. Ça m'a impressionné, ça m'a beaucoup touché. Donc, un remerciement pour la personne qui a fait le don. Moi, je me dis, c'est pas tout le monde qui peut faire un don d'organes. Mais si quelqu'un se décide à le faire, c'est tellement qu'il y a un cachet chrétien dedans. C'est du concret, c'est pour aider une personne qui en a besoin. Alors moi, je trouve que Ken Bodle a fait un geste admirable, un geste qui est concret et qui exprime la foi chrétienne. Voyez-vous ? Alors on va conclure. Alors je suis content que la famille soit ici et bientôt on va baptiser. Hein, c'est celui-là qu'on va baptiser. Hein, on va baptiser l'enfant bientôt. Alors on est content que vous soyez là. Je sais que vous êtes déjà engagé dans cette paroisse. Je vous vois souvent à la messe. Alors aujourd'hui je suis heureux de baptiser votre enfant. Je sais que vous le faites parce que vous voulez mettre la fête ensemble. Il y a un enfant qui fait la première communion aujourd'hui et on commence par baptiser celui-là. C'est formidable. Alors tout ce que vous pouvez retenir, c'est que quand vous baptisez l'enfant comme ça et les enfants que vous avez, il faut leur inculquer l'amour, le service. Voilà, ça c'est important. Alors on conclut pour dire que quand nous allons aller prendre la communion maintenant, à la fin de la messe, il faut savoir que la communion, le corps du Christ, ne reste pas statique en nous. Le corps du Christ donne du dynamisme. Ça nous donne de l'élan dynamique pour que nous-mêmes, nous fassions l'offrande comme Jésus lui-même s'est offerte pour nous. Amen.